Cascodeur Podcast, épisode 171. Et sinon, ton micro est branché ? Enregistré le 9 juin 2017.
Vincent était là, mais il a eu un petit problème d'enregistrement, ce qui fait que vous n'allez pas l'entendre. Mais comme il a pas mal participé à la conversation, c'était un petit peu difficile de l'exclure. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai remplacé par un son qui est toujours le même. Qui dit « Vincent a parlé, a dit quelque chose, et puis à vous d'inventer et d'essayer de deviner ce que Vincent a dit pendant la conversation. »
Bonjour, bienvenue à tous dans l'épisode 171 des Cascodeurs.
Bonjour.
Vous l'aurez remarqué, c'est bonjour. Arnaud derrière le micro qui vous dit bonjour. Emmanuel a décidé de prendre des petites vacances, mais je ne suis pas seul. Bonjour Audrey.
Bonjour Arnaud.
Donc, oh, nous sommes tous les deux dans un même épisode.
Mon Dieu, mais serions-nous deux personnes différentes ? Pour de vrai ?
Mais c'est faut rassembler des moitiés de cascodeurs ou quoi ?
C'est ça, bon, alors, c'est les demi-cascodeurs.
Non, mais il y a une hypothèse comme quoi il y a un cascodeur qui est un peu qui aurait plusieurs personnalités, dont une féminine, tu vois, il se promène avec des perruques et tout ça.
Transsexuel.
C'est ça, la face cachée. Bonjour Guillaume.
Bonjour. Voilà. Pendant qu'Emmanuel est en vacances.
Oui, c'est ça.
On c'est va ça. Foutre le papa a laissé la baraque aux enfants, il va regretter.
C'est ça. Il va avoir un mal de fou à enregistrer, on va encore perdre des pistes, on va encore faire des trucs que son montage va être horrible et qu'il va encore nous détester. Bon, mais on t'aime Emmanuel, tu nous manques.
Bisous.
Bon, bisous.
On sait jamais ça peut marcher.
C'est ça, vas-y, essaye toi. Bon, on va commencer donc cet épisode, on est le 9 juin 2017, il fait un temps affreux à Paris.
Ouais,
j'espère
pas
que
beau,
pour vous il fait...
Il fait très très beau à Rouen, écoute, c'est... Ouais. Voilà.
Bah, ah si, il y a une petite éclaircie, tiens.
Ah ouais, bon, ouais. Espérons que ça dure. On vous rappelle que nous avons le système de crowdcasting sur lequel vous pouvez contribuer au podcast. Donc on verra qu'il y en a un aujourd'hui sur Gmetter. Donc n'hésitez pas, tout est en ligne sur le site web. Si vous avez envie, si vous avez des sujets à discuter, à parler, à nous présenter, n'hésitez pas à prendre un petit micro et de passer quelques minutes à parler d'un sujet et on vous diffuse sur l'épisode du mois suivant. Voilà. On va commencer, donc, bah, finalement, comme chaque mois, je dirais, depuis un petit bout de temps, on va commencer par les news, les langages, la JVM, et surtout, Java 9 et Jigsaw. Donc, Mark Reynolds essaye toujours de tenir la barre du navire. Enfin,
c'est
le navire, je sais pas si c'est c'est le Titanic ou pas. Mm. Il essaye de faire en sorte qu'il arrive à quai, mais c'est quand même très compliqué. Bon, le mois dernier, vous vous étiez arrêté à l'épisode où il avait lancé la public draft review, si je me trompe pas dans les termes, et que bah, plein de gens avaient voté contre, que c'était la rébellion de tout l'écosystème, parce que bah voilà, il y avait plein de sujets qui dans Jigsaw étaient mal gaulés, on va dire pour certains d'entre eux, et que ça plaisait donc pas à tout le monde. Et donc bah finalement, qu'est-ce qui devait arriver, bah arriva. Il est venu il y a quelques jours, il a annoncé sur la partie JDK, Java 9, qu'il demande un nouveau report de 8 semaines.
De 8
et donc,
ans
On n'est plus à ça près, ça fait 10-11 ans maintenant que le projet est lancé. Mais bon, aujourd'hui, bon, un Java 9 sans Jigsaw, ça reste impossible. Il avait demandé 30 jours là pour travailler, donc il y a eu beaucoup de travaux qui ont été faits en 30 jours, mais pas de là à dire que le sujet est finalement suffisamment proche pour terminer maintenant. La date de GA, c'était censé être fin juillet, c'était le 27 juillet. Donc là, bah, il a proposé de déplacer ça vers fin septembre, le 21 septembre. Donc j'ai pas regardé, mais j'imagine que ça tombe pas très loin de Java 1, pour qu'il y ait une annonce de fait à Java 1. Et j'imagine qu'il va plus avoir trop de marge de manœuvre pour
que
ça
ouais,
soit
21 arrivé. Septembre, ça doit être tout début octobre, Java 1, j'ai plus les dates en tête.
Je sais plus.
Deux semaines avant Java 1.
C'est ça. Là, je pense qu'il négocie le dernier délai, parce que si ça sort pas cette année, je pense qu'il va se faire taper un petit peu fort sur les doigts. Mais bon, ça avance quand même pour ceux qui suivent Jigsaw Java 9. Il y a eu pas mal de débats autour des des automodules. Donc, si vous vous souvenez, il y a cette fameuse notion d'automodule pour la transition depuis les jars vers les modules Jigsaw, avec un naming par défaut qui était pris à l'origine, qui était celui du jar lui-même. Donc ça, c'était très très controversé parce que bah dans le ClassPass vous avez facilement 36 commons jars dans votre ClassPass qui viennent de 36 endroits différents. Donc là ils ont quand même bougé, ils ont fait un pas en avant en permettant de prédéfinir dans vos jars une entrée dans le manifeste qui sera prise en compte en tant que automodule, donc en tant que nom de module par défaut. Donc ça permettra de migrer un peu plus facilement vers Jigsaw sans passer à Jigsaw, mais voilà, sans tout en ne fichant pas la grouille. Les autres choses que j'ai vu qui avaient pas mal bougé, c'est sur la partie visibilité, puisque les Java modules, bah un des gros changements de Java module, c'est le cloisonnement des modules, là où en Java on était jusqu'à présent c'était les portes ouvertes, on pouvait accéder plus ou moins à tout ce qu'on voulait avec la réflexion. Par défaut aujourd'hui ils voulaient tout fermer dans Java 9 dans les modules. Ce qui pose de nombreux soucis pour tous ceux qui font de la réflexion. Je pense que Guillaume, tu peux en parler pour Groovy, mais je pense que vous êtes les premiers à être impactés. Hibernate aussi pour Emmanuel. Enfin, c'est la galère. Tous les systèmes de tests, de framework, enfin toutes ces choses-là. Testez votre code si vous n'avez pas accès au code privé. Enfin, c'est une catastrophe. Voilà. Donc il y avait pas mal de choses. Donc là, ils ont fait un pas en avant en introduisant des nouvelles options pour permettre finalement ne pas fermer par défaut. Et donc je crois que la valeur par défaut de ces options, ça sera maintenant, t'auras juste des warnings pour dire « Ouh, c'est pas bien, t'accèdes à du code privé pour commencer. » Un warning.
Damn it!
Donc ça va permettre de faire une transition un peu plus souple aussi et de se dire « Bon, on va prendre un peu plus de temps à travailler sur cette notion d'isolation, de trouver des vraies solutions, probablement aussi au niveau du JDK, parce que je pense que tous les problèmes sont pas réglés. Mais on restera donc finalement dans une approche un peu... un peu équivalente à ce qu'on a aujourd'hui, où par défaut on peut continuer de voir le contenu des modules des voisins sans avoir à tout exporter, à tout donner l'accès, à ce qui est quasiment, ce qui est un enfer par défaut, voilà.
Damn it!
Oui, c'est ça. C'est les trois étapes, et puis ça leur permet au fur et à mesure de retravailler sur le sujet. Voilà. Donc c'est les deux principaux sujets que moi j'ai suivis. Vous en avez suivi d'autres là sur ce mois-ci, sur Jigsaw et sur Java 9? Il y a eu d'autres choses?
Non, je crois pas.
J'ai pas vu autre chose passer.
Et ça y est, donc XWiki, c'est prêt, c'est modulisé, c'est...
Damn it!
Parce qu'en fait, c'est marrant, parce que dès que tu veux, malgré tout, je vais commencer à regarder, et puis en fait, tu t'aperçois, ah ouais, mais le truc de test, là, ça marche pas. Bon, alors attends, on va essayer de trouver le truc de test qui marche. La librairie avec la bonne version, machin. Et puis après, c'est le système de build, là, qui va pas. Je peux même pas builder mon projet. Après, t'as déjà passé des heures ou des jours là-dessus, et t'en as même pas à régler les problèmes de ton projet à toi. Donc c'est impacté. Tellement de projets et de choses de base, hein, dont test, build, etc., qu'avant d'arriver à ton projet, t'as déjà plein d'autres trucs à régler. C'est l'horreur. Puis c'est le serpent qui se mord la queue, parce que je veux dire, ta librairie test, faut bien la builder aussi. Tu la builds comment? Ah oui,
Et le problème, c'est qu'il y a plein de librairies aujourd'hui qu'on utilise, qui sont pas vraiment maintenues, qui ont pas de gros efforts et qui c'est elles qui vont poser problème, puisque ça va être sur celle-là où, comment on la passe en Jigsaw? Donc, d'où les soucis de migration, d'automodules, etc., parce qu'on sait qu'il y a certains projets, ça va être dur de les faire bouger, va falloir les forquer, va falloir les réécrire, ou changer, ou switcher, autre chose. Enfin, voilà, il y a quand même beaucoup de boulot. Oui, c'est ça. Beaucoup de bonheur qui nous attend. Le mois dernier, par contre, il y avait, je sais plus si c'était Antonio ou Emmanuel qui parlait de Maven et Gradle et de l'avancement sur le sujet, qui disait méchamment que Gradle n'avait pas avancé sur le sujet. Oh, c'est faux. Gradle travaille sur le sujet. Cédric Champeau et quelques autres s'arrachent les cheveux.
Oui, Cédric, il a l'air de bien s'amuser en ce moment. Hein. Ouais, si vous le suivez sur Twitter, on va lui faire des bisous aussi, je crois. Bisous, Cédric.
Il en a besoin.
Bon, gros bisous, mais effectivement, et puis l'équipe Maven aussi, hein, Robert Schoffel qui est notre PMC, travaille beaucoup là sur avec l'équipe Jigsaw. Aujourd'hui, on a quelques prototypes à droite à gauche. Alors après, effectivement, les plugins sont pas tous en état release final, etc., puisque ça vaut pas le coup vu que le Jigsaw est pas terminé. Mais bon, on a des prototypes qui fonctionnent à droite à gauche. Après, c'est vrai qu'on a beaucoup moins de soucis que Cédric avec Gradle, avec Groovy, etc. Enfin, on a un peu moins de soucis, mais bon, voilà, il y en a encore plein. Il y a plein de choses qui restent. Qui...
Damn it!
Bah, par défaut, voilà. Enfin, qu'on travaille là-dessus, voir si c'est ce qu'on, si on parle là-dessus. Alors, pareil, ils ont quand même changé un petit peu. Je me rappelle plus. Par contre, j'ai pas retrouvé l'article, mais je crois qu'ils ont un petit. Au tout début, ils voulaient que le module name qu'on utilise soit quelque chose de lisible par l'humain et de compréhensible, donc que ça soit JUnit ou que ça soit quelque chose comme ça. On leur avait fait comprendre que bah finalement les notions de à la package c'était quand même pas trop mal pour pouvoir un petit peu identifier plus précisément les origines, etc. Je crois qu'ils ont quand même finalement bougé un petit peu là-dessus pour dire que oui, ça serait peut-être une bonne pratique de prendre des noms de modules. Et je crois que c'est d'ailleurs c'est JUnit 5 que j'ai vu passer. Je crois que c'est JUnit 5. Alors ils sont pas encore en release finale, je crois que ça doit être des bêta ou je sais plus quoi. Eux ils ont fait une première release ou alors un premier ou des premiers builds où ils exposent leur automatique module name voilà de manière à réserver leur nom. Alors je sais plus ce que c'est, mais ça doit être org JUnit quelque chose, enfin voilà, c'est quelque chose qui est
damn it.
Donc voilà, donc JUnit, ça ils sont à fond dedans, mais voilà, donc il y a pas mal de gens qui continuent de bosser. On verra comment ça évolue pendant l'été, mais en gros là, je pense que Mark Reynolds, il joue sa dernière carte, son dernier va-tout, et il faut que ça soit fini pour la rentrée, donc ça va pas mal bouger, mais bon, ça évolue. En tout cas, a priori, ils essayent d'écouter les remarques qui ont été faites. Après, est-ce qu'ils les prendront tout au compte, on sait pas, mais bon, on sait qu'on en a eu quelques-unes, on a vu que ça a bougé, là, les automatiques modules, les illegal access, etc. Bon. Espérons que sur les autres sujets qui étaient un peu problématiques, ça va, ils vont trouver des moyens d'avancer ensemble. On va passer, je vais faire mon cool. on va changer de section et passer aux plateformes. NPM est sorti en version 5.
Oui. Wow.
Super.
Oh, oui.
Qu'est-ce que ça veut dire?
Est-ce que ça supporte Jigsaw?
Alors écoute, je crois que c'est en préparation. Non, ils ont pas ce genre de problème. Ils ont... Bon, alors la nouvelle version, elle est censée...
Est-ce qu'on peut leur filer Mark Reynolds ou pas?
Alors, s'il fait la même tête que la dernière fois que je l'ai vu, c'est-à-dire le jour même du vote, où c'est la première personne que j'ai vue en arrivant au speaker dinner à Devox UK, ça va pas marcher. Il était pas très heureux, le pauvre. C'était pas vendeur.
D'accord.
Donc je pense qu'on va le garder. Puis on va essayer de prendre soin de lui, quand même. Hein. non, donc ouais, NPM 5 qui devrait être un peu plus solide, qui est censé apporter un petit peu plus de garanties de sécurité, notamment. Moi, j'aimerais bien qu'il amène un peu plus de stabilité, personnellement, parce que j'en ai un petit peu marre des librairies qui sautent à la volée ou des trucs comme ça. Parce que justement, avant mon dernier talk à Devox UK, genre une heure avant, tu t'aperçois que tous les packages de ta version NPM ont sauté.
Ouh.
Bon, et ben heureusement qu'il reste une heure, je vais tout réinstaller. C'est sympa. Donc voilà, mais là il y a quand même quelques changements. Alors notamment, en fait, il y a le mécanisme du cache qui a été complètement réécrit. Donc il y a vraiment pas mal de modifications à ce niveau-là, et l'ancien cache ne sera pas pris en compte. Donc faites attention à ça. Vous aurez pas mal de, enfin, ça vaut le coup d'aller lire parce qu'ils ont vraiment beaucoup bossé dessus. L'option -save qu'on faisait pour ajouter le package à nos dépendances globales est maintenant l'option par défaut. Donc si vous ne voulez pas que ce soit que le package que vous installez soit ajouté à votre à vos dépendances globales, eh bien il faudra mettre, je crois que c'est moins no save maintenant. D'autres petites modifications du genre quand il va être offline maintenant, au lieu d'essayer de faire des requêtes, il va essayer d'aller directement sur le cache s'il peut, ou péter violemment. Voilà, donc pas mal de modifications comme ça. Bon, j'espère que ça sera plus stable. Moi, personnellement, c'est plus le truc qui m'embête avec NPM. J'ai régulièrement eu des problèmes d'install, quand même.
Mais c'est eux qui ont eu pas mal de soucis, où des fois, les librairies, effectivement, ils se permettent de les retirer ou de les désactiver sur leur repo. Enfin, ils ont une politique de gestion qui est peut-être un peu plus... peut-être trop ouverte ou je sais pas, enfin.
Bah en dehors de la politique de gestion, moi c'est vraiment la stabilité sur ma machine, si tu veux, qui me pose problème le plus régulièrement. J'ai déjà eu par exemple une version de NPM qui craque comme ça, quoi. Juste, je m'en souviens, c'était quand Ionic avait sorti la bêta de la version 2 et que j'avais installé la CLI, j'ai pété tout mon NPM. Tu vois, donc c'est moi, c'est des trucs comme ça en fait qui voilà, j'adore NPM, mais alors punaise, j'aimerais bien qu'ils aient fixé ces problèmes de stabilité. Bon, j'ai pas mis une note là-dessus, mais bon, j'espère qu'ils bossent dessus quand même.
Mais en tout cas, ça continue de télécharger la terre entière. Parce que c'était quand même le principe. Ils essayaient quand même d'être en forte compétition avec Maven et Docker. Donc là-dessus, on est d'accord que ça continuera d'être des bons compétiteurs et que pour les vendeurs de bande passante, ça reste un bon outil.
Ah ben, il y a pas de raison de changer une équipe qui gagne. Hein, je vais te dire.
je suis rassuré. Passons à Kubernetes. Alors la news là du mois dernier, c'était à j'ai oublié le nom de la conférence, c'est les compétiteurs de Docker, comment ils s'appellent, à chaque fois j'oublie. CoreOS Fest. Donc c'est Oracle qui a annoncé qu'elle allait contribuer à Kubernetes. Donc bah ça reste une bonne nouvelle pour la communauté, et puis bah surtout qu'ils ont annoncé qu'ils allaient cette fois contribuer vraiment dans le vrai projet Kubernetes. Le but, c'est pas de faire comme ils ont déjà fait plein de fois, de se dire ouais on contribue en faisant notre fork et puis bah on vous filera des patchs de temps en temps. Voilà, donc ils sont engagés à travailler dessus parce que ils veulent reposer donc justement toute leur logique de gestion de containers sur du Kubernetes, et donc ils vont contribuer sur cette partie là voilà. Donc les écosystèmes continuent de pas mal bouger à ce niveau là et on voit bien que les plaques tectoniques entre les très gros, les Oracle, les Microsoft, etc., tout ça bouge régulièrement pour essayer de se dire où est-ce qu'ils se positionnent dans l'écosystème des containers et de la gestion des containers. On passe au cloud, les news du cloud. CodeEnvie racheté par Red Hat. Alors c'est dommage, Emmanuel est pas là pour en parler. Alors CodeEnvie, bah personnellement je connais assez bien puisque effectivement. Oh, pour cause. J'étais là quand ça a démarré, donc chez Exoplatform au tout début. Donc c'est une spin-off de la société Exoplatform de Benjamin Mestralet, où ils ont il y a donc très très longtemps sur Exoplatform, on avait eu ce besoin de créer un pseudo IDE, mais vraiment un tout petit IDE pour la plateforme de portail qu'on avait. Donc coucou Julien Viette et toute l'équipe de l'époque. Et ben ça a évolué en véritable IDE, parce que ben en fait il y avait un besoin de faire des choses plus utiles, et puis bah ben, comme Exoplatform c'était du flou web, c'était bien de pouvoir rester dans la plateforme elle-même, et ça a fait donc une spin-off qui s'est appelée CodeEnvie, sur lequel ils ont aussi donc contribué une grosse partie de la code base au projet Eclipse sous le nom de Eclipse Che. Et donc, bah, ils viennent d'être acquis par Red Hat pour travailler plus efficacement sur OpenShift, donc la plateforme OpenShift où vous avez bah, justement tout votre environnement pour déployer, pour builder, pour tout faire sur le web avec des containers, avec tout ce qui va bien. Et bah comme CodeEnvie est aujourd'hui complètement dans cette mouvance avec un IDE, avec la manipulation des containers qui vont bien, etc. Bah voilà, c'était assez logique qu'ils se mettent ensemble. Et donc voilà, donc CodeEnvie rejoint Red Hat et spécifiquement la partie OpenShift. Vous avez des commentaires dessus, ouais?
Damn it!
Non, à ma connaissance, il est en Tunisie maintenant. Il a préféré le soleil, ouais. L'autre news, mais on n'en sait rien, on sait pas ce qui se trame derrière, c'est AWS qui a embauché James Gosling. Donc, ce nom doit vous dire quelque chose, j'imagine, les uns les autres, hein, le papa de Java. Mm-hmm. Donc, il a rejoint AWS, ça a été annoncé, je sais plus, il y a quelques semaines. Il l'a annoncé sur son Facebook. D'ailleurs, derrière, il a refait une annonce en disant, bah, non, je ne vous dirai pas ce que je vais faire, parce que, déjà, un, j'ai pas le droit, et deux, en fait, j'en sais pas grand chose, mais voilà. Enfin, comme d'hab, quand on rejoint ces grosses boîtes-là, c'est pas pour dire exactement ce qu'on va faire, ils en savent pas non plus grand chose. Mais voilà. Donc, AWS a récupéré James Gosling. On va voir ce que ça donne dans les prochains mois. Comme signal et comme projet sur lesquels il va bosser. Mais voilà, donc il a abandonné les petits robots sous-marins qui bossaient, je ne sais plus le nom de sa société. Et voilà, donc il rejoint AWS.
Damn it!
Toi, tu restes CTO.
Damn it!
On t'a pas encore été viré.
Damn it!
C'est que t'apprends sur Twitter. Ah, en fait, t'es viré. Oh merde.
Merci Ludovic de m'apprendre par Twitter que je suis viré.
Damn it.
Bon, bah, félicitations avec
Sweetie. Bon, bah, tant mieux, parce que si t'étais viré, on aurait été obligé de te virer des cascodeurs aussi, ça aurait été embêtant.
Ah oui, c'est ça, ouais, c'est ça, y a...
Bah, c'est la descente aux enfers, hein, c'est... Ah ouais, non, mais voilà, ouais.
Alors la grosse news, donc c'était le mois dernier, c'est Google I/O qui a eu lieu, c'était quand?
Tout à fait, qui a eu lieu donc mi-mai à San Francisco, enfin dans la campagne à côté. donc
la campagne à côté. C'est quoi? C'est San José? C'est
non, t'es à Mountain View, mais t'es au bout du campus. Alors c'est super, hein, c'est un espèce de gros site, c'est génial, mais t'es un peu au milieu de nulle part quand même. Hein. Et donc c'était un Google I/O EA first. Donc ça tournait beaucoup autour de l'intelligence artificielle. Alors si vous voulez avoir un concentré, je dirais des grosses annonces, bah il y a les deux keynotes, il y a la keynote principale de Sundar Pichai, celle que j'ai passée en bad au fond de mon siège. Parce que c'était on va voir les sujets après, hein. C'est le développeur en moi était émerveillé, l'être humain était quand même assez flippé. Et puis après il y a la keynote développeur qu'on avait l'après-midi, qui peut être peut-être un petit peu plus intéressante pour les gens qui nous écoutent, puisque celle du matin est quand même orientée très produit. Donc il y a eu plusieurs grosses annonces. Je les ai pris pas forcément dans l'ordre où ils ont été annoncés sur la keynote, mais bref, une des annonces c'est les Google Cloud TPU. Donc
travaux publics d'utilité, non c'est ça.
Voilà, bah tu sais mieux que moi, hein, c'est toi qui y travailles. donc en fait, il y avait déjà une première version des TPU qui sont, ça fait comme un.
C'est des CPU mais spécialement designés pour
le machine learning,
les réseaux de neurones, etc.
Voilà. Et donc en fait, la première version, elle faisait que tu pouvais que les faire tourner dessus. Là, la première, tu vas pouvoir les entraîner puis les faire tourner sur la deuxième. Alors c'est assez rigolo parce qu'en fait, tu voyais sur le slide, tu sais, ils te prenaient une photo vue du dessus, donc ça paraissait tout petit. Sauf qu'après, dans une détente, t'avais la bête en vrai et c'est énorme comme truc. Si vous voulez vous faire peur au niveau des chiffres, allez voir l'article, c'est assez impressionnant. C'est 180 teraflops. C'est de la folie. Et en fait, ce TPU, il a été designé pour travailler en groupe. Donc l'idée, c'est d'en faire des racks entiers finalement. Donc ils en ont utilisé un pour. Alors je sais plus, ils l'ont entraîné sur un de leurs modèles qui prenait. Je crois que ça prenait un jour sur 32 machines à s'exécuter avant. Et là, bah, ils ont réussi à le faire tourner en un après-midi sur ce nouveau TPU. Voilà. Et donc ça va être disponible avec Google Compute Engine. Et ça peut être programmé avec TensorFlow. Et justement à propos de TensorFlow, alors il y a eu une annonce que je trouve assez sympa, c'est TensorFlow Research Cloud. Donc en fait c'est un cluster de 1000 justement de CTPU qui est disponible gratuitement pour les chercheurs des grandes universités par exemple, etc. Ensuite on a parlé d'AutoML. Alors AutoML en fait c'est une... Alors eux, ils le présentent comme une approche qui vise à finalement simplifier et en quelque sorte, mais je mets des gros guillemets, démocratiser l'intelligence artificielle. En fait, ils sont partis du constat que designer un réseau neuronal, c'est un travail qui est quand même excessivement long, qui demande un niveau d'expertise qui, de fait, va limiter son usage à une communauté de scientifiques et d'ingénieurs assez restreinte. Et donc là, l'idée, c'est d'avoir un réseau neuronal de contrôle, donc qui va s'appeler le contrôleur, qui va être capable de proposer des modèles d'architecture de type enfant, qui va être évalué sur une tâche bien précise. Le contrôleur aura le retour justement de cette exécution et ça va lui permettre d'améliorer les architectures enfants qu'il a proposées et de s'améliorer lui au passage. Et donc on va répéter cette opération-là des milliers de fois. C'est une approche qui a été testée sur la reconnaissance d'images et sur la modélisation du langage, qui sont des points les plus importants pour Google à l'heure actuelle. Et les résultats obtenus étaient vraiment au niveau de ce qu'ils obtiennent avec les plus grands experts chez eux, quoi. Donc c'était assez impressionnant. Du coup, on sentait c'était vraiment EA first. Donc on va avoir de l'intelligence artificielle partout. Déjà, on va avoir des smart replies dans Gmail. Voilà, c'est trop bien. Moi, je préférais qu'il arrête de planter tout le temps, mais bon, chacun ses priorités.
Mais elles y sont déjà sur la partie mobile.
En fait, c'était dans Inbox. Et maintenant tu l'as, tu devrais l'avoir dans Gmail.
Ouais, c'est voilà. Ça. Juste sur mobile. Mais sur mobile, effectivement, moi, j'ai découvert ça. Et c'est pas trop mauvais. En fait, c'est assez rigolo. Mais les petits bouts de phrases qu'ils proposent sont pas déconnants. Après, bon. Mais c'est bien fichu, je trouve.
Ah, ouais. Alors, je devrais pas critiquer, mais en fait, des fois, souvent, c'est OK, thanks, et tout ça. Je me dis, ouais, bon, ils pourraient faire un
oui, effort. Oui, bien sûr, ça reste des trucs simples. Ça reste des trucs simples, mais bon, ça repère bien s'il y a une question ou si c'est quelque chose. Enfin, en fonction du type de conversation précédente, il repère si c'est une question, effectivement, il va dire OK ou not OK ou je sais pas quoi, mais bon, enfin, ça reste assez intéressant comme. Comme approche. Après, bon, voilà, ça te donne juste, simplifie de 3 secondes la réponse à ton message, mais c'est bon, c'est.
Donc voilà. Après, il y avait une belle partie sur. Donc là, on est dans la partie produit sur Google Assistant et Google Home. Donc Google Assistant qui a été sorti de Halo pour devenir un produit à part entière finalement, qui va être disponible sur iPhone. Et donc sur Google Home, il y avait pas mal aussi d'annonces comme le fait. Alors bon, ça sera pas pour nous, ou en tout cas pas dans l'immédiat, mais les États-Unis et le Canada vont pouvoir passer des appels en main libre gratuitement avec la Google Home. Par exemple.
C'est assez sympa.
Et donc elle arrive au Japon, en Australie, au Canada, en Allemagne et en France cette année. Voilà, le assistant.
Le coup du sympa, je comprends pas trop le truc parce que bon, la Google Home, c'est la petite boboîte là. Enfin, Apple vient d'annoncer la même chose là pour.
Ouais, tout à fait. Ouais.
Mais en gros, c'est le truc quand même que t'as sur ta table de salle à manger ou je sais pas trop où, que tout le monde entend et que tu parles à ta boboîte. Enfin, les appels généralement, enfin ça dépend les types d'appels, mais tu les passes rarement avec du bruit autour et puis avec les enfants qui courent, un téléphone greffé sur l'oreille, c'est quand même plus pratique qu'un truc qui enregistre le bruit ambiant et qui, je sais pas, non.
Ouais,
je sais
moi
pas.
Je trouve ça cool parce que souvent, enfin on appelle les parents, les grands-parents des enfants.
Ouais, pour papy mamie, voilà, mais faut pas leur dire des trucs que t'as pas envie que les enfants entendent, mais.
Ouais, non, c'est sûr. Mais
comme qu'en fait le chien il est pas parti à la ferme, mais il est mort, c'est ça.
Ouais, c'est ça.
Papy,
ou que le Père Noël, bon, hein.
En fait.
En fait, moi, j'aime bien l'idée parce que je déteste le téléphone. C'est un truc, ça m'agace. Ouais. Donc, en fait, je suis incapable de rester au téléphone et en général, je fais 10 milliards de trucs. Je fais la vaisselle, je fais plein d'inchants. Donc, sincèrement, si je suis obligée parce que t'es obligée de temps en temps d'appeler ta grand-mère et d'écouter tous les potins de la famille, et ben, moi, ça me va très bien, hein. Tu vois, si c'est Home qui est loin.
Donc, tu déplaces ta petite boîte à côté de ta machine à laver et pendant que tu fais ça, tu parles à ta grand-mère.
Non,
t'as même pas
voilà.
Besoin de déplacer la boîte, hein, parce que t'as, tu sais, c'est un micro omnidirectionnel. Et en fait, ça entend très bien de partout. C'est vraiment pas mal.
Dans un studio, parce que j'imagine que dans un appartement ou une maison correcte, ils sont quand même trop loin.
Ouais,
mais après, je crois que tu peux les faire
dans la pièce. Enfin, faut que ça soit moins dans la pièce, j'imagine.
Par exemple, moi, je suis dans la cuisine. Moi, le mien, il est dans la salle à manger. Il l'entend. Il y a pas de souci. Hein.
Dans ton château, ça marche.
Ouais.
Faudrait tester chez Vincent. Son château est plus grand, je pense.
Damn it.
Et d'ailleurs, je crois que c'est pas dans les parce que j'ai mis un lien avec les 101 annonces qui ont été faites, mais il y avait pas le. Ils ont fait des améliorations au point de vue matériel également, mais c'était pas listé, je crois. Un autre truc qui est vraiment cool, ça par contre, c'est que Deezer, SoundCloud et bientôt Spotify arrivent gratuitement sur la Google Home. Voilà. Bon, bah ça alors, vous laisse de marbre, ok.
Là, pour le coup, là, ça m'intéresse plus.
Voilà.
Ah, tu vois. Hein.
Là, j'admets que c'est déjà plus intéressant.
Et après, au niveau de d'assistants, il y a le paiement, en fait, les transactions et le paiement qui arrivent. Donc, ça veut dire, alors par exemple, voilà, la démo qui a été faite pendant la keynote, c'est une personne qui demandait à assistant, bah trouve-moi le resto, machin, affiche-moi le menu, commande-moi, je sais pas, un burger, un coca et un brownie, et assistant faisait tout jusqu'au règlement, et c'est bon, tu vas être livré, t'es livré un quart d'heure après. Voilà. Donc ensuite, il va être capable aussi, maintenant, assistant, de mettre des notifications proactives. Si par exemple, il sait que tu as, je sais pas, t'as un rendez-vous dans un quart d'heure, bah il te le, enfin, ça va passer par assistant. On avait déjà des trucs par le. C'est pas forcément le bon exemple là que je vous donne, mais il va être capable de nous suggérer des choses en fonction de nos modes de vie. De manière un peu plus
dépravée.
J'ai rendez-vous avec ma maîtresse.
Oui, bon, voilà. Ben surtout que ça va passer par ton Google Home.
Ça va être ma question parce que enfin.
Mais est-ce que tu le mets vraiment dans ton agenda?
C'est peut-être pas, mais non.
Damn it.
Il a vu que t'avais été
mais,
sur
non, mais plus regardez, sérieusement
pendant 3 heures aujourd'hui. Est-ce que vous voulez que je le stream sur la télé du salon? Mais non, non, c'est bon.
Non mais comment est-ce qu'il gère? Parce qu'après, enfin, au bout d'un moment, on vit dans une famille, on n'est pas tout seul, donc comment ça? Parce que enfin, c'était un peu le problème que je voyais. Et d'ailleurs, on a un peu le même problème avec les tablettes, les téléphones, etc. Tous ces devices-là, ils sont vraiment faits pour une personne. T'as ton téléphone, alors effectivement, après, il te connaît bien, il a toutes tes infos sur toi, etc. Mais là, ce genre de truc, bah là, pour le coup, c'est censé être un truc familial. Enfin voilà, t'as une femme, un mari, des enfants. Donc le fait de bah voilà. Te donner tes rendez-vous d'agenda, non, il va être capable de se plugger.
Là, c'est pas sur la Google Home, hein, c'est je suis revenu sur Assistant. J'ai peut-être pas été assez clair, c'est mais, Google Assistant, donc Google... sur ton téléphone, tu vois, enfin, ça va pas être.
Mais sur Google Home aussi, ce qu'ils avaient annoncé, c'est la reconnaissance de 6 voix différentes.
Tout à
donc,
fait.
Quand t'auras ta femme ou toi qui demande qu'est-ce que j'ai sur mon calendrier aujourd'hui, bah, il va regarder sur ton calendrier à toi, il va te reconnaître.
D'accord.
Toi.
En fait, maintenant, ils fonctionnent main dans la main avec Assistant. Ils peuvent travailler tous les deux.
Ouais.
Et donc maintenant, voilà, donc Assistant est plugé quand même, etc. Ok, je comprends mieux. Merci.
Voilà.
Damn it.
Bah là, ils attaquent iOS à fond. Hein. Donc, je pense que ça ne saurait tarder. Et pareil, un troisième élément en fait qui vient d'intégrer dans l'écosystème pour l'expérience utilisateur, c'est la télévision en fait, puisque l'idée, c'est de s'appuyer sur la télé pour afficher les réponses également. Donc, tu vas poser des questions à ta Google Home et elle t'affiche les réponses. Je sais pas quel est le temps à San José, parce que voilà, et il va t'afficher la réponse sous forme de carte sur ta télé.
Là, les enfants sont en train de regarder et là, ils t'insultent. Parce qu'ils
et là, tu entends des cris.
Un dessin animé ou quelque chose.
Voilà.
Mais c'est vrai, par exemple, tu sais, quand tu demandes, imagine, tu discutes avec. Un agent qui te dit, enfin tu lui demandes quelles sont les dernières robes à la mode, donc il va te dire le numéro du modèle ou le nom ou je sais pas quoi, ça veut rien dire. Alors que là au moins visuellement tu pourras voir le résultat. Parce qu'il y a des choses, tu peux faire plein de choses à la voix, mais tu te rends compte qu'il y a plein de sujets, bah t'as envie de voir vraiment avec tes yeux pour te faire une idée de ce qu'il te raconte quoi.
Voilà, donc après l'autre gros produit qui était ce qui était évoqué, c'était Google Photos, avec notamment donc c'est pareil Google Photos qui devient bah, de plus en plus intelligent. On va avoir ce qu'ils appellent les sharing suggestions, sorry. Donc c'est des albums partagés avec les contacts. Qui vont pouvoir contribuer. Donc tu vas, par exemple, t'as une sortie avec des collègues, etc. Et ben il sait que à tel moment, à tel endroit, tu es sur cet endroit-là avec ces personnes-là que tu avais invitées. Et donc tout le monde va pouvoir mettre ses photos. Ou tu peux aussi. Alors non, ça, je crois que c'est ce qu'ils appellent shared libraries. Et le sharing suggestion, c'est par exemple. Tu peux choisir que toutes les photos que toi Arnaud par exemple, toutes les photos que tu prends de tes enfants, elles sont automatiquement partagées avec ta femme. Voilà. Donc il va savoir reconnaître quand il voit le visage de tes enfants et envoyer directement à ta femme.
Donc il n'enverra pas les photos de la maîtresse.
Normalement non.
C'est ça, faut pas qu'il trompe parce que
voilà.
Les enfants de quelle femme avec quelle
Ah alors là oui, ça, effectivement je sais pas s'ils ont poussé le truc aussi loin, ça je peux pas vous dire.
On peut demander à Arnaud d'être bêta testeur.
Ma femme va apprécier, je suis sûr.
Tu rigoles, mais moi, c'est le truc que j'ai trouvé extrêmement... qui m'a un peu dérangé, c'est que toutes les démos de ces produits-là, les gens qui étaient sur scène le faisaient avec leurs propres données. Donc, le mec qui a fait cette démo-là, qui a pris cet exemple-là, le faisait avec la photo de sa femme et de ses gosses, quoi. Et le mec, tu vois, toute sa vie, tu vois, tout son album photo, enfin... C'était très particulier, quoi. La nana qui commandait un repas, à un moment, tu voyais son adresse, c'est... Bon.
C'est vrai, t'es sûr que c'est pas... C'est vrai, c'était vraiment... T'avais l'impression que c'était vraiment ses données et tout
Ah oui, non, mais t'avais...
pas fait des comptes spéciaux
non,
et tout
Non, si tu veux, le mec avec ses filles et tout ça, et sa femme, non, il y avait t'as vu la masse de photos qu'il y avait, tu voyais bien que c'était pas...
Intéressant.
C'était voilà. Sinon le truc vraiment génial, c'est les retouches visuelles, parce que apparemment tu vas avoir prochainement la possibilité de gommer de pouvoir retoucher les photos. Alors par exemple, si tu prends une photo à travers un grillage, il va être capable d'effacer le grillage ou des trucs comme ça. Donc c'était assez impressionnant. Ça, j'ai un peu moins compris ce que ça venait faire dans le truc, mais pourquoi pas. Tu vas avoir la possibilité de faire des albums photos imprimés. Donc, ça s'appelle Photobooks. Tu vas lui dire de prendre tel album, de faire un album photo avec, et lui, il va se débrouiller, il va sélectionner, en fait, les meilleurs, il va les mettre en page, et puis tu peux commander ton petit photobook et te le faire livrer, mais pour le moment, ça ne marche qu'aux US. Dans le genre...
Comme d'habitude.
Ouais, oui. Dans le genre, c'est pareil, j'ai pas tellement compris ce que ça faisait là, mais pourquoi pas, il y a Google for Job, donc maintenant, si tu cherches un boulot, tu peux passer par Google.
Donc ils vont tuer le marché des monsters, et etc.
Voilà.
Diane Green, donc qui dirige le cloud, elle bossait pour une boîte qui faisait justement ce truc-là. Et donc quand Diane Green a rejoint, qui dirige le cloud, a rejoint Google, elle a amené sa boîte avec elle, et donc cette API... pour chercher des jobs. C'est pour ça que ça, enfin, c'est de là que ça vient, quoi, en fait.
Ok. Alors ça.
C'est peut-être opportuniste, mais bon, on sait pas.
Ouais, je sais pas.
Pourquoi pas. Ça a parlé réalité virtuelle aussi. Bon, alors là, c'est, voilà, pas le sujet sur lequel je suis allée voir le plus de trucs, donc, si ça vous intéresse, je vous conseille d'aller voir dans les annonces. Une des grandes annonces, c'est que Daydream, qui est le moteur de réalité virtuelle qui fonctionnait avec le téléphone, va maintenant supporter sur des casques indépendants du coup du téléphone. Et puis ils ont annoncé de nouveaux téléphones qui fonctionnent avec, etc. Là où ça devient, je pense, plus intéressant pour nous développeurs, donc c'était les annonces autour d'Android. Donc là, on est sur Android O. Alors, ils étaient très, très, très contents. C'est assez marrant parce qu'il y avait des chiffres comme ça qui nous ont répété à quasiment tous les talks de la conf. Donc, notamment sur Android, on en est à 2 milliards de terminaux activés par mois. Donc, dans les terminaux, on compte les télés.
En total, parce que 2 milliards par mois, c'est...
En fait, c'est télé, auto, téléphone, tablette, etc., si tu veux. Ils englobent tout.
Mais non, 2 milliards par
mois. C'est 2 billions monthly. 2 billion monthly, donc c'est 2 milliards.
Oh putain. Ah oui, je croyais que c'était globalement tout ce qui avait été... Ah ouais, la vache.
Oui, voilà, c'est... Enfin, non, si, je sais pas. Pour moi, c'est 2 milliards de plus. Hein. Écoute, j'ai relu le truc plusieurs fois. Bon,
Ok, d'accord. Voilà. Wow, la vache. C'est encore pire, pas encore en plus que...
Sur Android O, la bonne nouvelle, c'est qu'il va y avoir des... il y a eu un gros travail de fait sur les performances, donc des sur tout ce qui est vital, la vie de la batterie, la mémoire, les trucs comme ça. Donc si tu as un Nexus 5X, toi-même tu sais, hein, parce que c'est quand même pas du luxe. Il va y avoir... alors, il y a un truc que je trouve génial, ça s'appelle Picture in Picture. En fait, tu vas pouvoir avoir deux applications ouvertes en même temps, finalement, avoir une espèce de miniature. Tu vois, tu vas être dans un appel Hangout, par exemple, et tu vas mettre le Hangout en miniature et tu vas pouvoir aller sur le calendrier. Des choses comme ça. Donc, il va...
Ça, c'est pas mal. Ça, c'est ouais. Pratique, quand même.
Je trouve ça assez cool. Il va y avoir un smart text sélection. La sélection du texte va être plus intelligente. Donc, par exemple, si tu es dans une adresse, il va repérer que tu es dans une adresse et il va la prendre toute entière. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Ah oui, alors, voilà, la grosse annonce, c'est que Kotlin est maintenant officiellement supporté. Donc, ils ont travaillé avec JetBrains. Alors, ils sont notamment en train de travailler avec JetBrains pour que Kotlin passe dans Non-Profit Foundation. Mais donc le voilà, Kotlin est officiellement supporté par Android. Il était déjà pas mal utilisé apparemment par les développeurs de la communauté, mais c'était pas vraiment officiel. Et donc il y avait une démo notamment avec Android Studio, parce que là il y a la 3.0 d'Android Studio qui était vraiment super cool. C'est-à-dire que par exemple le gars te disait bah voilà, si tu sais pas comment écrire tel bout de code en Kotlin mais que tu sais le faire en Java, tu ouvres une classe Java, tu mets ton bout de code, tu le copie-colles. Tu le colles dans ta classe Kotlin et IntelliJ, oui, donc Android Studio qui repose sur IntelliJ va te le transformer directement en code Kotlin. C'était assez bluffant.
Je ne commenterai rien.
Ah, oh, ça pourrait être aussi joli en Groovy.
Mais oui.
Il y a beaucoup de choses qui ressemblent à Groovy hein, dans Kotlin. Hein.
C'est ça. Et ce que j'ai vu qui a changé dans Android, c'est le packaging. Là, il n'y a plus le SDK. Enfin, c'est ça, c'est le SDK qui est vachement allégé. Et maintenant, tout est téléchargé comme, bah d'ailleurs, depuis un repo Maven ou un truc comme ça. Enfin, ça, on évite d'avoir ce truc lourdin qu'il y avait avant où il fallait installer un SDK avec des 3 milliards de trucs dedans qui prenaient 3 plombes. Je crois que j'ai vu, ils ont amélioré aussi cette partie-là sur la
ouais, partie. Ouais, il y a eu un gros travail quand même
avec un repo Maven qui est sur Google oui. Cloud. J'imagine que c'est Ludovic Champenois qui était dessus puisqu'il y a aussi la copie de Maven Central désormais qui devait être derrière ce projet-là.
Voilà. Alors ensuite, il y a eu une annonce sur Android Go qui en fait est une version d'Android qui est destinée au marché émergent finalement. Donc, c'est-à-dire, c'est destiné aux téléphones, ce qu'on appelle d'entrée de gamme, qui ont des capacités mémoire souvent assez réduites, qui sont souvent utilisées effectivement dans les pays émergents où l'accessibilité au réseau est quand même limitée et coûteuse. Donc l'idée c'est alors ça faisait un peu débat parce que finalement ça t'oblige à avoir ça fait deux versions parallèles du langage. Donc par exemple sur les applications Google, il y a des applications qui ont été redéveloppées, YouTube par exemple, tu vas avoir la prévisualisation et le mode offline. Donc là on était un peu jaloux en fait. voilà, donc ça faisait débat voilà au niveau des devs, mais je pense qu'il faut garder à l'esprit que c'est pas pour les mêmes marchés finalement, et donc a priori tu vas pas forcément si toi ton application elle cible le marché US européen, t'auras pas forcément l'utilité et vice versa. Voilà.
Ouais, enfin partir du principe que c'est parce qu'on est en Europe ou je sais pas quoi qu'on a une bonne bande passante et qu'on a des réseaux qui fonctionnent bien, ça dépend des opérateurs, moi je dis hein, donc là-dessus.
Oui, mais globalement t'auras du wifi dans la journée assez facilement, ça te coûte pas, alors c'est cher mais c'est pas aussi cher que ça peut l'être dans
tout à fait, voilà. Ouais.
L'idée elle est là en fait. Alors après, il y a un autre truc qui avait été évoqué l'an dernier, mais ça avait juste été évoqué, il n'y avait rien eu après dessus, c'était les Android Instant Apps. En fait, le concept de l'Instant Apps, c'est que tu vas pouvoir ouvrir une application sans l'avoir installée sur ton téléphone. Et donc moi, par exemple, j'envoie à Guillaume un lien, l'application... je lui envoie un lien New York Times, mais il n'a pas l'application, mais c'est pas grave, l'application pourra s'ouvrir en natif... etc. Et donc ça, en fait, ça, ce qui est assez cool, c'est que t'as pas besoin de redévelopper une application. Il faut que la tienne soit modularisée d'une certaine façon, mais du coup, c'est le même.
Sans Jigsaw.
Voilà. voilà. Et puis, il y avait plein d'autres petites annonces à aller voir, et aussi Android Auto, qui était, alors il y avait carrément, il y avait deux voitures sur le campus, il y avait une, Il y avait une Audi et une Volvo. Il te montrait comment c'était intégré, c'est assez impressionnant. Là, pour le coup, je trouvais ça vraiment intéressant, le fait de, parce que évidemment, t'as l'assistant qui est là, parce qu'effectivement, je pense que c'est plus sécure de pouvoir demander à sa voiture directement de lui trouver un distributeur automatique sur le chemin que de bidouiller sur son téléphone au feu rouge ou je ne sais quoi. Donc ça, c'était vraiment pas mal. Côté web, bah c'était l'annonce officielle de Polymère 2.0, même si on avait déjà eu on avait déjà eu la preview tout ça, mais là, c'était le lancement officiel, donc notamment avec le support de la spec V1 des web components, et on a maintenant une syntaxe qui est basée sur les classes ES6, donc ça donne un code qui a un visuel assez, enfin, t'as l'impression t'écris du JavaScript quoi finalement, t'as l'impression de faire du natif. Ils ont beaucoup retravaillé le polyfill aussi, donc maintenant il est beaucoup plus petit, il est plus modulaire, ce qui fait qu'il va envoyer à chaque navigateur que les briques dont il a besoin, hein, vu que les navigateurs continuent à évoluer chacun de leur côté. Par exemple, maintenant Safari sait intégrer les Shadow DOM, enfin, ce qui fait que tu peux utiliser Polymer avec les éléments Polymer avec la plupart des frameworks JS. Par exemple, si tu veux faire du vanilla, ça marche très bien. On a une nouvelle CLI aussi, avec un nouvel analyseur qui est capable de compiler le code ES6 en ES5, par exemple, un nouveau linter pour comprendre la syntaxe et les features qui viennent avec la nouvelle version. Au niveau des éléments, les éléments de la librairie Google, ils sont disponibles en version hybride, donc ça marche avec la V1 et la V2. Et si vos composants sont purs polymères, normalement la migration elle doit se faire assez facilement. Et puis il y a des nouveaux éléments, ça c'est assez cool, ce qu'ils appellent les App Media Elements, qui vont servir à faire du process vidéo, photo, audio sur le téléphone. On a parlé aussi c'est de Lighthouse. Donc en fait Lighthouse c'est un petit outil qui va vous permettre, alors vous pouvez le mettre en extension Chrome, vous pouvez le faire tourner depuis la ligne de commande ou en module Node, et ça vous permet d'auditer finalement votre application, et ça va vous donner alors c'est super bien fait, ça donne des indicateurs en pourcentage finalement par feature, par fonctionnalité. Alors enfin c'est pas vraiment fonctionnalité, ça se base sur les principes du Progressive Web Apps, et donc ça permet d'avoir des indicateurs sur où est-ce que je suis bon, où est-ce que je peux m'améliorer et comment je peux m'améliorer. Et on a aussi parlé de Workbox, qui est un set de librairies JavaScript qui va servir, en fait, qu'un set de librairies autour des services workers. Avec notamment les blagues sur le Skype à côté. Fais-la, Guillaume, parce que je sens que t'as envie de la faire.
Ouais, Polyfill, c'est la version suivante des Polypocket.
Voilà. l'autre grosse partie, c'est Firebase. Firebase qui maintenant a des Cloud Functions. Donc ça veut dire que vous allez pouvoir réagir à par exemple des événements qui sont levés par Firebase ou à des requêtes HTTP. Ça peut être par exemple si l'utilisateur upload une image, vous allez pouvoir la réduire avant de la stocker. Des choses comme ça. Le mécanisme de reporting des crashs maintenant, c'est celui de Fabric qui a été intégré l'an dernier. On va avoir de l'authentification par numéro de téléphone. Après c'était, alors il y a un Firebase Alpha programme, donc maintenant si vous voulez tester les nouveautés de Firebase, si vous aimez vivre dangereusement, vous pouvez vous enregistrer dans le Firebase Alpha programme et vous aurez accès à tout ça. Et puis le truc super sympa, c'est qu'il y a une partie des SDK qui sont open sourcées, donc les SDK JavaScript et iOS notamment. Alors pas tout, hein. A priori, ça va se faire au fur et à mesure. Pour le moment, c'est la real-time database, l'authentification, le cloud storage et le cloud messaging. Et puis les SDK admin aussi qui sont open sourcés. Voilà. Et puis donc cool. Après, bah, cool. Merci. <Cool. rire> je vous ai mis un petit lien vers l'article de Jean-François Garraud, qui est le GDG lead du GDG de Nantes, qui a fait un article récap que je trouve assez sympa, avec des liens vers les talks Alors, il y en a pas mal qu'on a aimé en commun, Jean-François et moi. Notamment, il y avait des talks sur comment mesurer, enfin, quelles sont les métriques qui affectent vraiment l'expérience utilisateur. Les intervenants proposaient un découpage assez intéressant entre, en fait, t'as l'affichage des premiers pixels, mais t'as plusieurs étapes, donc l'affichage des premiers pixels, celui du premier contenu de mise en forme, du premier contenu pertinent, etc. Avec, évidemment, des vraies solutions pour mesurer tout ça. Et moi, il y avait un tool que j'avais beaucoup aimé, c'est donc ça s'appelait Building for Your Next Billion Users, et en fait ça, ils expliquaient comment ils avaient travaillé sur c'est la réflexion derrière Android Go, comment tu amènes des applications sur ces marchés émergents, quelles sont les difficultés rencontrées par ces utilisateurs-là, leurs spécificités, le fait que par exemple la plupart d'entre eux, tu prends un pays comme l'Inde, ils parlent plusieurs langages. Ils vont faire des recherches dans plusieurs langues. Il y a ces problèmes dont on parlait tout à l'heure de connectivité restreinte, de mémoire. Ils ont très très peu de mémoire sur leur téléphone, donc ça arrive souvent qu'à la fin de la journée, ils effacent du contenu pour pouvoir retélécharger des trucs, etc. Et donc il y avait toute une réflexion là-dessus, c'était super intéressant. Si vous êtes fan comme moi de la développeur console aussi, il y avait le DevTools State of the Union, qui était assez impressionnant. J'ai pris une grosse claque, avec notamment le support de tout ce qui est Await Async Promise. On va pouvoir débugger tout ce qui est Await Async Promise dans la console développeur. On va pouvoir, il va être capable d'auditer le third party code. Donc si vous avez des librairies que vous utilisez, il va être capable d'aller débugger dedans. Enfin, voilà, c'était hyper impressionnant. Je vous ai perdu les garçons.
Non, on écoute avec.
Ouais, c'était bien dense.
On voit tes paroles.
Merci beaucoup.
C'était génial.
Merci beaucoup pour tous ces retours.
Je vous en prie.
Très intéressant. Et puis qu'on travaille ou pas chez Google, on les utilise régulièrement, leurs produits ou comme leur librairie. Donc c'est vrai que se tenir au courant. On vous fera pas l'affront de faire la même chose sur les keynote Apple. On sait que pour le coup, c'est quand même moins proche de notre écosystème Java. Mais effectivement, c'est vrai que ça reste des choses à suivre. Il y a quand même beaucoup d'annonces qui sont faites, comme tu le disais, beaucoup de choses autour de l'IA. Ils font que suivre DevOps France, c'est ce qu'on avait décidé l'année dernière, cette année pour le machin. Enfin, c'est des suiveurs, on le sait.
Bah bien. Oui. Est-ce que tu veux, ils nous envoient des petits mails entre deux, on est bien obligé de répondre. Enfin, ça serait pas sympa de les laisser comme ça. Mais... C'est ça. Non, vraiment en tant que développeur, c'est bluffant quand tu vois les. Je crois que j'en ai pas parlé, mais il y a Google Lens qui est le gros. Qui était une des autres grosses annonces, en fait, Google Lens, qui est les yeux de l'assistant. Enfin, c'est-à-dire que c'est l'IA, mais côté visuel. Et ça, c'est le truc, en fait, je crois, qui m'a fait le plus bluffer, parce que, en fait, maintenant, par exemple, si tu filmes un code Wi-Fi, il va être capable de voir que c'est un code Wi-Fi, il va te proposer automatiquement la fenêtre de connexion avec le mot de passe rentré dedans. Si tu reçois une photo avec un numéro de téléphone, il va voir que c'est un numéro de téléphone et tu peux l'appeler directement. Et des trucs comme ça. Et ça vient s'intégrer dans tout l'écosystème, avec Assistant, avec Home, etc. Donc tu prends la photo d'une affiche de concert, il va te proposer de réserver, de l'ajouter à ton calendrier et de payer ta place, puisqu'il y a le paiement et des choses comme ça. Donc voilà, c'est là où, comme je vous disais tout à l'heure, le développeur en toi, il a les yeux qui brillent, c'est beau, c'est tout ça. Et l'être humain, des fois, il est un peu flippé parce que ça...
Il a un peu peur, ouais.
Voilà. T'as un petit peu peur pour ta vie privée, mais bon.
Ouais, c'est ça. Mais on voit que c'est la même chose chez Apple. Enfin, oui. Ils suivent de toute façon les mêmes tendances.
Ils peuvent pas,
exactement les mêmes sujets qui sont abordés. On voit bien les mêmes sujets, l'IA qui pousse dans leur OS et qui mettent à dispo des applis, la partie reconnaissance, etc., etc. Enfin, l'équivalent du Home, etc. Je sais plus comment ils l'ont appelé, mais c'est vraiment les mêmes sujets qui traitent. Oui, comme toi, c'est vrai que ça fait peur.
Et après, ce qu'il disait dans l'article que j'ai mis pour Google Lens, c'est assez logique, en fait, l'évolution vers la reconnaissance d'image de plus en plus poussée, c'est que, en fait, le web qui au départ était vraiment, qui a été construit pour héberger du contenu texte, est de plus en plus, tourne autour de plus en plus autour d'un contenu graphique et vidéo, etc. Donc, c'est logique qu'ils aillent dans cette direction-là, qui est un peu la prochaine grosse étape, mais voilà.
Ok, cool. Bon, bah, merci en tout cas pour toute cette overview, là, tout ce parcours sur Google I.O. du mois dernier. Franchement, très intéressant. On va passer à la partie outillage. Quelques outils et quelques changements dans les écosystèmes. Alors, c'est GitHub qui a annoncé qu'il lançait une marketplace. Alors, ils avaient déjà des systèmes un peu similaires, mais là, ça y est, c'est enfin sorti.
C'est ça. Donc, il y a plusieurs parties. Il va y avoir du code review, de l'intégration continue, du monitoring, de la gestion de projet. En fait, ce sont des GitHub apps qu'on va pouvoir intégrer sur, choisir de les intégrer sur tous nos projets ou sur des projets en particulier, etc. D'ailleurs, vous pouvez développer vous-même vos GitHub apps en utilisant, d'ailleurs, puisque l'annonce sous-jacente, c'est la GitHub GraphQL API, donc qui est l'API qui est utilisée par GitHub en fait hein, pour développer ses produits et donc auquel on peut avoir accès pour développer ces fameuses GitHub apps.
Damn it.
Non, pas seulement en fait, puisque GraphQL te permet, en fait, c'est un query, c'est une sorte de cours, c'est un query language d'API. Donc, en fait, GraphQL, ça fait plusieurs choses, mais ça te permet notamment de définir un schéma sur ton API, et après, tu peux faire des requêtes dessus. Et ce qui est intéressant, ils expliquaient qu'eux avaient choisi justement GraphQL parce que ça permet de restreindre, en fait, les données que tu requêtes pour obtenir exactement ce qui t'intéresse en une seule requête en temps réel.
Damn it!
Bah en fait c'est l'API que tu vas utiliser pour remonter les infos dans ton maps.
Damn it.
Jusqu'à présent tu sais il y avait.
Damn it.
Non elles sont intégrées dans ton GitHub.
Damn it.
En fait tu les.
Damn it.
Oui.
Damn it. Damn it.
Oui.
Damn it.
Voilà.
Damn it.
Voilà c'est.
C'est cool.
C'est tu vas.
Damn it.
Donc tu peux faire des while true pour voir si c'est bien sécurisé et que ça tourne bien. Complètement en fait.
Ils vont apprécier.
Ils vont adorer, j'en suis sûr.
C'est ça.
Damn it.
C'est ça.
Voilà.
C'est ça.
Chacun voit midi à sa porte.
Ça. Mais tu peux. Effectivement. Non, mais c'est le but, voilà, d'ouvrir GitHub. Aujourd'hui, il y avait déjà pas mal d'ouvertures. Maintenant, voilà, il y aura une marketplace officielle avec des intégrations, etc. Voilà. Autre petit, donc c'est un nouveau site que j'ai trouvé, qui a été lancé assez récemment, à ce que j'ai vu, qui est pratique. Alors pour tous ceux qui ont besoin de sécuriser leur site web, aujourd'hui, le plus simple, ça reste Let's Encrypt, qui, je sais pas si vous l'utilisez déjà chez vous, tous les trois, si vous avez déjà testé, mais bon, donc c'est pas très compliqué à mettre en place, mais bon, il y a quand même quelques trucs à faire. Et donc, il y a un bot qui a été créé juste pour, sur n'importe quelle machine, en gros, vous lui demandez, enfin, il vous dit quel OS vous avez, quel serveur web vous avez, puis en gros, il va automatiquement vous installer sur votre machine et ça va vous configurer automatiquement le web server, le Let's Encrypt, tout ce qu'il faut bien automatiquement. Voilà, je trouvais ça sympa. Ça simplifie une fois de plus la mise en place de HTTPS sur les sites web. On sait très bien qu'aujourd'hui la sécurité, ça reste très important. Voilà. Donc si vous êtes toujours pas de site, si vos sites sont en HTTP et que vous avez juste la flemme de passer en HTTPS, sérieusement aujourd'hui, c'est plus une excuse valable. Voilà. Il y a des outils qui existent et des moyens qui font qu'en quelques minutes, franchement, vous mettez en place HTTPS sur vos sites web. Et l'autre nouvelle, c'était côté IntelliJ, côté outillage, ils ont sorti un JavaStream Debugger plugin. Je sais pas si vous l'avez testé, en tout cas, j'ai vu les
démos. J'ai pas eu l'occasion de le tester, mais il a l'air super cool. je crois que je vais faire des POC juste pour le tester. En fait, c'est un plugin qui vient se rajouter à la console de debug et qui va vous permettre d'évaluer pas à pas l'état de votre stream finalement, et vous pouvez sélectionner si vous voulez pas à pas ou pas tout, etc. Donc c'est
papa, maman, tout ça.
Par exemple. Oui.
C'est ça,
Ouais.
C'est ça, tu donnes ton entrée, tu donnes ce que tu veux en entrée et tu vois visuellement comment ça évolue dans la stream en fonction de tes filtres, tes maps, etc., etc. Ouais, c'est bien fichu. Enfin, ça rend visuel les différentes opérations qui. C'est vrai, quand on débute avec les streams, des fois, on est un petit peu perdu entre tout
ça. Mais ce que je me demande, c'est pourquoi ils l'ont fait en plugin. Ouais, pardon. Pourquoi ils l'ont fait en plugin et pas intégré directement. Ouais.
Ouais.
Ouais. Ouais, c'est IntelliJ. Ouais. CNTG, c'est un plugin officiel, je suis d'accord avec toi, Guillaume. Je sais pas pourquoi il est pas par défaut. Alors, peut-être qu'aussi ils veulent tester, voir, stabiliser avant de le mettre par défaut, je sais pas. C'est peut-être un peu, parce qu'ils ont quand même beaucoup maintenant de plugins, créés par eux qui sont pas activés par défaut. Il y en a une partie qui sont quand même plutôt utiles.
Ouais.
Donc je pense que c'est peut-être aussi le truc, c'est, et puis peut-être aussi pour pas que ça soit trop lourd par défaut, la distro IntelliJ, je pense. Ça doit être ça. Mais bon, effectivement, c'est un peu dommage parce que ça lui donne pas la visibilité que, qu'il pourrait avoir. Enfin, voilà, tous ceux qui utilisent les streams.
Damn it.
Oui.
Intéressant. Ouais. Non, mais c'est intéressant parce que moi j'ai pas encore eu l'occasion de les mettre dans un vrai projet. Tu vois, donc moi je trouve ça génial, mais c'est intéressant d'avoir le cas dans la vraie vie.
Ouais, j'en ai fait quelques-unes j'en ai fait un peu sur des projets perso, enfin, ou des petits projets d'entreprise, parce qu'après, faut déjà avoir des projets en Java 8. Mais bon. Mais effectivement, c'est vrai que les cas d'usage, c'est vrai qu'en lisibilité, c'est pas tout le temps évident. C'est pas tout le temps évident la clarté du code, version stream, version pas stream. Après, côté performance, je suis complètement d'accord que là-dessus, généralement, quand c'est pour manipuler des listes, des collections, etc., où t'as 10 éléments, stream ou pas stream, enfin encore plus les parallèles stream, ça sert à rien. Voilà, donc c'est vrai que c'est pas vraiment un argument. Les performances, c'est pas l'argument de base pour les utiliser dans la plupart des cas. Faut vraiment avoir déjà des.
Damn it.
Ah, ça c'est intéressant par contre. Alors après.
Ouais, mais après les streams, c'est bien quand t'as des gros streams. Si c'est juste pour 10 éléments dans ta collection, ça sert à rien.
C'est ça, c'est vraiment. Ouais. Enfin, et puis l'organisation elle-même des données dans la stream, etc. Enfin, ça dépend comment sont organisées tes données, etc. Mais après, ça reste un art d'écrire proprement les streams avec.
Damn it.
Bon, on va rassurer Marc. Hein, tu vois, donc Marc, Java 8 et les streams, on n'y est toujours pas. Donc Jigsaw et Java 9, prends ton temps. C'est bon, franchement, on n'est pas pressé. Hein.
Je suis sûr qu'il va nous en remercier d'ici le prochain épisode.
Il nous dira merci sur Twitter. on va passer à la catégorie autre. Waouh, la catégorie autre. Les choses qu'on sait pas classer. Il y a la FNOR.
Ça me semblait pertinent, autre.
C'est ça. Il y a la FNOR qui a ouvert le projet de normes du clavier français. Alors, je savais même pas qu'il y avait un projet de normes de clavier français.
Si, on en avait parlé en plus dans un ancien épisode des Cascodeurs, justement. Donc,
j'étais pas là. Probablement, j'ai eu quelques absences ces derniers temps. C'était toi, Audrey, qui a rajouté ça. Donc, en gros, c'est juste pour dire qu'effectivement, ils veulent entendre la voix du public, c'est ça. Ils font comme Jigsaw, ils décident enfin de s'ouvrir à la communauté et aux gens d'avoir leur avis.
C'est ça. Alors, enfin, l'idée, c'est d'arrêter les acrobaties digitales. Pour une fois que le mot est bien utilisé, ça vaut le coup de le notifier. Non, en fait, voilà, ils se rendent bien compte qu'il y a des caractères qui sont de plus en plus utilisés et qui sont parfois un peu complexes à faire. Alors, sur un AZERTY classique, type arrobase, accolade, etc. Donc, l'idée, c'est d'avoir en fait, le clavier de base, c'est-à-dire les caractères de base, les lettres de l'alphabet et les chiffres ne changeraient pas de place, mais c'est les signes autour. On aurait par exemple plus facilement accès aux voyelles accentuées ou à des choses comme ça. Alors il y a deux propositions en fait. La première c'est AZERTY et la deuxième c'est BEPO, qui est le clavier ergonomique en langue française, qui a l'avantage d'être une alternative libre. Donc les deux options sont poussées. La consultation est ouverte jusqu'au 9 juillet, donc vous pouvez donner votre avis. Vu que c'est quand même notre outil de travail principal, bon, ça peut valoir le coup de se pencher dessus.
Damn it.
Moi, je suis en QWERTY depuis longtemps, en fait. Pour coder, je trouve que QWERTY est beaucoup plus pratique qu'AZERTY.
Damn it.
Bah, typiquement, en QWERTY, quand t'as besoin d'écrire un email en français, là, c'est sympa. C'est très, très sympa. Parce que là, tu jongles pour aller récupérer les accents, les machins, les bidules. Ça. Donc oui, ça peut être intéressant.
Ok, cool. Autre news. Alors effectivement, je savais pas où la classer, mais c'était surtout pour lui mettre un peu de pression. Pour ceux qui se souviennent de la chaîne YouTube Quoi de Neuf Docker, qui avait été créée par Nicolas Deloff, il y a un petit bout de temps maintenant, il y a 2 ans, il avait arrêté il y a 1 an, faute de motivation, faute de temps, faute de tout ça. Et qu'est-ce qu'il a annoncé? Donc là, il a fait une petite annonce. Vous pouvez aller sur la chaîne YouTube pour aller la voir. Mais il va s'y remettre. Voilà. Donc activement, il a trouvé des copains pour lui donner des coups de pied aux fesses pour le faire avancer. Donc si vous êtes intéressé par Docker, il va enfin avoir à nouveau des news. Alors c'est toujours des news à la fois sérieuses, mais tournées d'une manière rigolote et intéressante. Voilà, qui sont sur des formats courts. Voilà. Donc il relance le projet Quad 9 Docker. Voilà. Si vous êtes intéressé.
Damn it!
Non, il est toujours chez nous, on le garde bien au chaud chez CloudBees, mais a priori, il a du temps libre, alors donc on doit pas l'occuper assez, a priori, donc bon, le dites pas à Sacha, mais voilà, sur son temps perso, a priori, il veut reprendre du temps pour bosser sur Quad 9 Docker, et voilà, en tout cas, bon, je trouvais que l'initiative était quand même super sympa sur les épisodes qu'il avait déjà pu faire, c'est vrai que ça se regardait, et pour le coup, c'était rigolo d'avoir une vidéo, parce que je suis pas fan personnellement de tout ce qui est vidéo pour le partage de connaissances, je trouve ça généralement très ennuyeux et puis vraiment pas didactique, pas pratique. Je préfère un bon blog post qu'une vidéo pour te présenter un truc. Mais pour le coup, lui, comme il s'attardait pas sur la partie purement technique, mais vraiment plus sur les bases, sur les concepts, etc., etc. C'était vraiment. Enfin, je trouvais que ça se prêtait bien. Enfin voilà, il le faisait. Je trouvais ça intéressant. Voilà.
Damn it.
Je suis Bam. Un peu vieux. C'est vrai que moi, les YouTubers.
Oh la vache.
Damn it.
Ça, c'est fou. Ouais.
Je suis d'accord. Je suis d'accord. Et j'ai même ce débat en interne avec mon équipe parce que c'est vrai que voilà, c'est il y en a qui aiment bien ça. Regarde, moi perso, enfin, j'y arrive pas. J'avoue, effectivement, c'est peut-être le coup d'être vieux, mais je trouve ça. Mais enfin, je peux pas m'empêcher de faire autre chose en fait quand je regarde la vidéo. Donc obligatoirement, bah, je suis pas efficace parce que bah, je regarde la vidéo, je fais autre chose. Donc finalement, je retiens rien de la vidéo. Enfin, je sais pas. J'arrive pas à trouver personnellement. Donc c'est peut-être ma vieillesse, peut-être que les jeunes sont plus multitâches, qu'ils arrivent à bien comprendre la vidéo en même temps qu'ils font autre chose, ou peut-être qu'ils font pas autre chose. Ouais. Ouais, c'est ça, ouais, ça, faut pas que ça soit trop. Ouais, c'est trop.
Bon, c'est quand la retraite déjà?
bientôt.
Oh merde.
C'est ça. Ah mince.
Oh les balles.
La quoi?
La retraite.
Non mais toi, pas Audrey, c'est bon.
Ah, tu m'as eu.
T'es trop jeune.
Moi je, ouais, moi c'est mort, je pense.
Non, on aura bouffé tout le budget, c'est bon, tu peux
c'est
oublier.
C'est bien aimable, merci.
De rien.
Le tout, c'est que tu payes pour la note.
Ah oui, hein, bah oui, bien sûr.
S'il te plaît.
Yes.
Bah, justement, bonne transition, on va passer sur toute la partie loi et société, organisation. Donc il y a un premier bilan mitigé, un an après l'adoption du règlement de l'Internet ouvert. C'est toi, Audrey, qui avait rajouté ça.
Ouais, donc...
La neutralité du net, c'est un article sur la quadrature.
C'est ça. Donc qui revient un petit peu sur cette première année et qui constate que ça a pas bougé très très vite en fait. Par exemple, le déploiement de l'IPv6 est toujours très lent, donc ça permet pas aux utilisateurs de fournir du contenu ou des applications auto-hébergées. En matière de ce qu'on appelle la VOD, les services gérés, donc la voix sur IP, choses comme ça, il y a toujours des... c'est pas tout à fait des situations de monopole, mais le fait que des opérateurs profitent de leur position sur le marché pour proposer leur propre offre ou celle d'un partenaire, ce qui fait qu'il y a quand même une favorisation de certains services au détriment d'autres. Il y a toujours, alors le truc dont je pense entendre de plus en plus parler, c'est ce qu'on appelle le chantage à la 5G. Alors si vous voulez bien comprendre de quoi il s'agit, il y a Numérama qui avait fait un super article là-dessus l'an dernier, puisqu'en fait c'est Orange qui le premier avait été obligé, alors je crois que c'était dans le cadre ça devait être une séance de travail au Parlement français ou un truc comme ça, mais en gros ils avaient été obligés un petit peu d'avouer, ils avaient clairement dit que la neutralité du net n'était pas compatible avec la 5G, puisque l'idée de la 5G en fait c'est pas tant d'avoir un seul réseau que d'utiliser plusieurs fréquences en parallèle qui vont avoir des capacités différentes en fonction des besoins des applications. Et donc, on pourrait imaginer une priorisation de certains services, de certaines fréquences, etc. Et donc ça pose un vrai problème en termes de neutralité du net, évidemment. Et ça faisait partie des points noirs du bilan, puisque Orange en France, mais il y a d'autres opérateurs qui ont l'intention finalement de monétiser cet accès à des fréquences plus puissantes, plus rapides, pour financer, alors c'est toujours pareil, hein, c'est toujours le même argument, c'est pour financer les investissements. Mais donc ça veut dire que bah on paiera pour l'accès aux services en fonction de donc on aura accès aux services que si on a les moyens qui vont avec. Voilà, concrètement. Vous aurez accès à la vidéo sur votre téléphone que si vous pouvez payer les options qui vont bien. Voilà, on revient toujours aux mêmes problématiques. Un autre problème qui est pointé par la Quadrature, c'est le fait qu'on n'a toujours pas le choix de liberté dans le choix du terminal. Donc aujourd'hui, quand vous prenez une offre ADSL, fibre ou autre, la box, elle vous est imposée par votre FAI, et ça, c'est pas neutralité du net compatible, en fait, vous devriez être à même de choisir le matériel que vous voulez.
Et elles sont pas équivalentes, hein, là, ouais. Pour le coup, d'un opérateur.
Tout à fait,
autre,
ouais.
C'est pas la même chose.
Voilà. Hein. Ce qu'on appelle le zéro rating. Donc, en fait, le zéro rating, c'est le fait que, dans votre abonnement, vous avez accès à certains services de manière gratuite et illimitée. Et donc, ça va permettre à des opérateurs de mettre... C'est toujours pareil, hein, on met certains contenus en avant, et finalement, comme le reste est payant, etc., que ça va rentrer dans votre forfait de données, décidez quelque part en tant qu'opérateur du contenu qui va être le plus accessible à vos clients. Et puis, remarquez aussi que au niveau européen, il y avait parce que donc le zéro rating, c'est déjà le cas en Belgique, aux Pays-Bas, en Allemagne, etc. Et qu'il y a de plus en plus d'offres commerciales où en fait les gros groupes vont posséder à la fois le réseau, les services, le média, et les services et les médias qui proposent dans les offres. En fait, et nous on a le cas déjà en France, puisque en fait SFR, le groupe Altis, est propriétaire de certains journaux, et qui a une offre SFR Presse gratuite quand vous êtes abonné SFR. Et donc voilà, on en revient toujours au même problème, à la question de l'accès à l'information, etc.
Et les médias.
Et de manière générale, le constat concernant l'ARCEP, qui est donc l'autorité de régulation en France, c'est que ils prennent note, mais ils attendent qu'il y ait des plaintes qui soient déposées, quoi. Ils sont pas tellement proactifs.
Damn it!
on attend de voir jusqu'à quel point ça dégénère.
Le CSA, c'est encore un autre problème. Le CSA, c'est que c'est apparemment le délai de traitement est hyper long pour les plaintes, mais voilà, c'est un peu, c'est le genre d'autorité, effectivement, qui devrait prendre les rênes et qui le fait pas tellement. Donc, voilà. Et donc, celui d'après, ouais. Je sais pas si vous avez eu le temps de l'écouter.
Si, donc, ouais, Codé.
Ouais. Ouais. C'est un podcast de France Culture, je crois, qui dure 5 minutes, qui s'appelle donc Codé, ce n'est ni facile ni marrant. Alors c'est en fait le podcast parle d'un article. J'ai cherché rapidement, j'ai pas c'est trop ça, le temps ouais. Cette semaine, mais j'ai pas réussi à retrouver l'article original d'un développeur qui s'appelle Walter Vanini et qui en fait en a un petit peu ras-le-bol d'entendre partout que la programmation c'est un jeu d'enfant, que c'est facile.
C'est de ta faute ça.
Ça c'est de ta faute. Et bim.
Bim.
c'est assez intéressant. Bon, alors, honnêtement, il y a des parties où c'est un petit peu, je trouve, presque trop, où il expliquait qu'en fait, le profil intellectuel des développeurs, c'est un profil hors norme, parce qu'il faut être analytique, être créatif, il faut des capacités de concentration extraordinaires, etc. Alors bon.
C'est pas faux. Bah, nous sommes exceptionnels.
C'est pas faux, mais je trouve que ça va un peu loin, quoi. C'est pas faux,
parce
mais...
Parce que tu trouves qu'on n'est pas exceptionnel, nous.
Ah bah, si, alors vous, définitivement, dans une certaine catégorie de l'exception, mais tout à fait, oui, non, ça c'est...
Elle avait une période d'essai ou pas, Audrey? Je me rappelle plus ce qu'on avait dit. Comment que ça marche? Je sais plus.
Non, on l'a gagné.
Donc ouais, non, voilà, il y a ce moment où il parle du fameux flow et, moi, c'est surtout le moment où il en arrive à la relation quasi symbiotique entre l'homme et la machine, où là, tu te dis, bon, wow, mec.
C'est sensuel.
Hein. Ok, on fait un truc très particulier, voilà, mais, je trouvais ça.
Ça m'a fait rire, voilà. J'avoue.
Ouais. Damn it!
En fait, je crois que quand il disait pas marrant, c'est parce qu'en fait, il explique un petit peu plus loin que ce qui l'embête, c'est l'espèce de, il parlait notamment de la caricature hollywoodienne du codeur mâle blanc qui va pianoter machin et qui réfléchit après. Et je pense qu'en fait, c'est ça qui le gêne parce que, puisque effectivement, en fait, c'est beaucoup, beaucoup plus complexe que ça. Donc je crois que c'est à ce niveau-là où il parlait de, tu vois, bon.
Ouais, c'est la contradiction avec le être sérieux. C'est-à-dire que ce qu'il dit, c'est que bon, il y a plein de métiers, où effectivement, on a tout de suite une image du gars sérieux, machin, les médecins, les trucs, les choses, c'est super sérieux. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'on en est toujours, quand on n'a pas l'image du boutonneux, de 15 ans, qui pianote sur son clavier, c'est au mieux les mecs complètement tarés qui arrivent à coder plus vite que la lumière et qui font des trucs, que ça marche tout seul. Et puis ça bouge sur tous les écrans, machin, etc. Enfin, c'est vrai que les images qu'on a des développeurs, dans les films, etc., c'est complètement. Et puis, bien sûr, c'est vrai que cet aspect, cette vision ludique de la chose.
Et puis l'image, tu vas retrouver dans les séries, les films, sur Facebook, les trucs comme ça, où des développeurs, je sais plus, t'en as, je crois que c'est un film sur Facebook où t'as. Les gars, ils passent les entretiens d'embauche, ils répondent mal, ils doivent boire un shot de gin ou un truc comme ça. Enfin,
oui, tu vois, c'est tout, ça, c'est
tout,
ça, c'est
tout
vraiment.
Côté, voilà, ouais. Pizza et
vous
soda.
Vous faites pas ça dans votre équipe?
Non, on me l'a proposé une fois en entretien. Heureusement, c'était une blague. Et voilà. Et mais après, tu vois, ce qui est intéressant en fait, c'est que lui, il expliquait qu'effectivement, coder, c'est compliqué à la fois techniquement et éthiquement. Et techniquement, en fait, moi, le truc qui m'a gêné, c'est que le journaliste qui rapportait le propos, quand à un moment, il dit « Oui, une ligne de code repose toujours sur des heures de réflexion d'un air un peu méprisant », alors qu'en réalité, c'est le cas. Puisqu'en réalité, il n'y a pas une seule ligne de code qu'on écrit sur laquelle on n'a pas bossé plusieurs heures. Mais ça, je pense que c'est extrêmement difficile à percevoir de l'extérieur. Pour les gens qui ne font pas notre métier, j'ai l'impression que c'est un truc extrêmement compliqué à appréhender. Et il insistait sur le point de vue éthique du fait que les voitures autonomes, les armes semi-autonomes et puis tout simplement les plateformes qui maintenant régissent tous les aspects de notre vie professionnelle, familiale, etc. Là où c'est intéressant, en fait, ce que j'aimais bien, c'était la conclusion, parce que ce que disait l'auteur, c'est que il revient pas sur le fait que connaître la programmation informatique, c'est un élément nécessaire, que ça le sera pour les générations à venir, et il va plus loin, c'est qu'en fait, pour lui, c'est un élément nécessaire de la citoyenneté, puisque justement, quand on voit l'impact de la programmation dans nos vies, on peut pas laisser ça simplement à une élite. Et c'est là où je me suis réconciliée avec le journaliste. C'est que à la fin, il expliquait que il aimait, enfin lui, il appelle ça le scribe à l'envers. Donc, il explique que pour lui, finalement, c'est une élite qui a déguisé son pouvoir pas sous le sérieux de sa mission, mais sous une espèce de fausse légèreté, ce côté pizza et code et machin, et qu'en réalité, c'est une activité hyper sérieuse et qui a des implications politiques et sur laquelle chacun devrait être vigilant, en fait.
On est d'accord là-dessus. Enfin, moi, j'avais bien aimé l'article, effectivement. Après, c'est comme toi.
Voilà, c'est très mitigé dans le.
J'avale pas tout ce qu'il raconte, mais ouais. J'avale pas tout ce qu'il raconte, mais c'est vrai que dans le. Après, voilà, on est toujours à cette vision du métier qu'on donne, qui est quand même loin de la réalité, et c'est vrai que voilà, coder, ça, c'est pareil, ça demande du temps, ça demande de la concentration, ça demande plein de choses, et c'est pas non plus que le truc rigolo qu'on voit à la télé, etc. Et c'est vrai que par contre, bah, le fait d'avoir plus de gens qui s'y connaissent correctement, ça reste l'enjeu pour tout le monde, je pense. Ouais. Cool. On va passer à l'outil de l'épisode. Donc là, cette fois, on va pas se fatiguer. On va remercier grandement donc Vincent Daburon, qui va nous parler d'Apache Jmeter. Il va nous présenter les nouveautés depuis la version 3.1, 3.2. Les nouveautés. Dedans, il y a du groovy, Guillaume. Du groovy dans les nouveautés de Jmeter. Jmeter, pour ceux qui connaissent pas beaucoup, c'est un des outils. Ce doit être le premier d'ailleurs. Hein. Vincent, tu connais bien ça. Qui permet de gérer les tests de charge donc il va nous parler pendant quelques minutes, il va nous présenter un peu ce qu'il en est dans l'état actuel de Jmeter et les dernières nouveautés de la librairie.
Bonjour, Je vais faire un crowdcasting sur l'outil de performance Apagimeter et de son écosystème. Alors, je m'appelle Vincent Daburon, je travaille dans une très grande société de services en informatique française. Je suis spécialiste Java que je pratique depuis 1996. Je suis aussi expert technique, spécialisé autour des tests de performance et de non-régression. Je suis un fan des cascodeurs que j'écoute depuis le numéro 1. Alors, concernant JMeter, je vais remonter à la version 3.0 qui est sortie en mai 2016, qui a mis quand même du temps à sortir, un an, un gros travail de nettoyage d'anciens codes, d'anciens frameworks dépassés et d'ajout de nouvelles fonctionnalités. Alors, visuellement, ça se voit parce qu'il y a eu un changement des icônes et puis des nouvelles fonctionnalités comme des fonctions de recherche dans l'arbre de résultats pour faciliter la recherche des parties dynamiques dans les pages, comme des numéros de transactions, des numéros de dossiers. Il y a eu aussi un travail important qui est fait autour des flux JSON, qui est de plus en plus important dans les applications modernes. Il y a eu un redécoupage, en particulier de tout ce qui est requête HTTP avec différents onglets pour que ça soit plus visible. Il y a eu aussi un ajout important de génération de rapports au format HTML et du JavaScript qui permet de rendre un résultat assez sympa à voir, et côté dynamique aussi avec du JavaScript. Il y a eu aussi l'ajout de Backend Listener qui permet d'envoyer les résultats vers des solutions comme Elasticsearch et depuis la version 3.2 directement dans des bases de données Time Series Database comme InfluDB et derrière souvent rattaché ou souvent de pair avec des outils de graphique comme Grafana. Un petit clin d'œil aussi autour de Groovy qui est devenu maintenant le standard dans JMeter et qui permet comme ça, qui est maintenant le langage préconisé quand on doit faire du scripting à l'intérieur de JMeter. La version 3.2 aussi nécessite maintenant Java en version 8. Je vais parler aussi maintenant d'outils supplémentaires, de plugins supplémentaires qui viennent d'un site qui s'appelle jmeterplugins.org. C'est un site qui existe depuis pas mal de temps, qui est géré par un Russe qui s'appelle Andrei Polinko, qui travaille chez BlazeMeter, qui lui-même s'est fait racheter par Computer Associate, et j'irais qui fait des tests de performance dans le cloud avec des scripts JMeter. J'ai participé à plusieurs plugins pour JMeter Plugin, des outils pour générer des rapports de synthèse, qui sont un peu l'union des rapports agrégés, des rapports summary report, parce qu'il manquait des colonnes. J'ai fait tout ce qui est des outils de filtre aussi, des filtres des résultats, de merge de résultats pour faciliter la comparaison. Et puis aussi un mini serveur HTTP dans JMeter intégré qui permet de gérer assez facilement les jeux de données au format CSV, en particulier lorsqu'on fait des tests avec plusieurs injecteurs et de gérer le jeu de données centralisé. Et j'ai participé aussi à tout ce qui est WebDriver, c'est-à-dire utilisation de Selenium dans JMeter. Et je voudrais aussi apporter un point important, c'est que il y a plus de 60 plugins en fait qui sont déclarés dans JMeter Plugins, qui sont référencés, j'irais, dans GitHub au niveau JMeter Plugins, mais qui aussi référencent d'autres plugins qui ne sont pas, j'irais, au niveau du code dans le site de JMeter Plugins. En particulier, il y a des plugins autour de WebSocket, il y en a même deux. Il y a un plugin autour de SSH qui permet donc de se connecter en SSH sur des machines ou faire du SFTP. Et ce qui est important, c'est que il y a de nouveaux contributeurs qui proposent en fait de rajouter un nouveau sampler, des nouvelles fonctionnalités. Par exemple, cette semaine, il y a des personnes qui ont rajouté des plugins autour de Kafka, de Apache Kafka. Voilà. Donc, s'il y a des gens qui sont intéressés, qui ont un protocole et qui veulent le mettre à disposition, il y a toute une gestion de plugins qui est quand même bien faite dans JMeter Plugins et qui peut être intéressant.
Merci Vincent. Et donc, Maintenant, on va passer à la rubrique débutant. Alors, l'article, je sais pas qui c'est qui l'a mis.
C'était Emmanuel, en fait, qui l'avait mis.
C'est Emmanuel.
Enfin, l'épisode d'avant, ouais, on n'avait pas eu le temps de le traiter et l'article était super intéressant, donc je me suis permise de le remettre.
D'accord. Donc, le Just-in-Time compilation, donc dans l'environnement JavaScript, mais bon, après, techniquement, ça peut s'appliquer à d'autres. Alors, qui veut expliquer ce que c'est que le Just-in-Time? Qui se lance?
Bon, eh ben, je sens que ça va être moi. donc en fait, c'est l'idée en JavaScript qu'on va accoler au moteur JavaScript un compilateur, enfin qu'on appelle un moniteur ou un profiler, qui va regarder le code pendant qu'il s'exécute et qui va noter le nombre de fois que certaines portions du code est appelée. Donc la première fois, le code va simplement s'exécuter normalement. Et puis, s'il y a des lignes de code qui sont répétées régulièrement, elles vont aller dans ce qu'on appelle le baseline compiler. Donc, c'est le premier niveau, finalement, du compilateur qui va stocker la compilation dans un coin. Donc, chaque ligne de la compilation, c'est un stub et c'est indexé par un numéro de ligne et les types de variables. Et si le code s'exécute vraiment, ce bout de code-là s'exécute vraiment énormément, là, c'est ce qu'on appelle du code hot et non plus du code warm. Et donc, dans ce cas-là, ça passe dans l'optimizing compiler qui va, lui, créer une version encore plus rapide de ce code. Donc, qui va, pour ça, prendre un petit peu des raccourcis. Ce qui fait que il va faire un certain nombre de... C'est bien, j'ai le bon en anglais et puis en français, c'est vachement utile. Un certain nombre d'assertions sur notamment le nom des propriétés, l'ordre dans lequel elles sont passées, le type des propriétés, etc. Et le truc, c'est que voilà, on sait en JavaScript notamment, ça peut une méthode peut être appelée 99 fois de la même façon et la centième elle ne le sera pas. Et donc ce compiler va quand même revérifier à chaque fois que ces assertions sont valides avant d'exécuter le code. Et s'il tombe sur justement cette centième fois où le code, les paramètres ont été appelés différemment, ou alors t'avais une array et jusque là c'était une array d'intéger et tout d'un coup c'est une array de string, il va voir que ça ne matche.
Vive JavaScript, on peut dire quand même.
Oui. il va voir que cette fois ça ne matche pas et donc il va jeter ce code optimisé, donc c'est ce qu'on appelle la désoptimisation. Et le truc, c'est que si vous avez justement un bout de votre code comme ça qui est appelé de manière suffisamment fréquente pour être qualifié hot et non pas warm, mais que ce code est sans cesse appelé de manière différente, ben en fait le compiler, à force d'optimiser et de désoptimiser, va entraîner des problèmes de performance finalement. Ça va être plus lent que si vous l'exécutiez à la volée ou depuis le baseline compiler, donc le compiler du niveau juste avant. Et donc c'est pour ça que la plupart des navigateurs finalement ont mis des limites à ce nombre de cycles et que par exemple ça peut être si au bout d'une dizaine d'optimisation de désoptimisation, il va juste arrêter d'essayer d'optimiser ce bout de code là. Et donc après il l'illustre justement avec un exemple. Donc là, l'article est super bien fait.
Mais ça reste, j'ai toujours trouvé que la partie compilation des langages, la partie JIT, même que ça soit en Java aussi, hein, je trouve ça toujours super passionnant. Je trouve ça super intéressant de comprendre comment ça fonctionne, de comprendre les optimisations. Après, je suis jamais allé dans les bas niveaux, mais il y a des trucs. Enfin, je trouve ça super.
C'est intéressant de savoir comment ça se passe, ouais, comment ça marche en dessous, ce que toi tu files à manger, quoi, finalement, à la machine.
Ouais, c'est ça. Ouais. Parce que le code que t'exécutes, au final, il est tellement modifié, tellement optimisé à la fin que t'as intérêt à comprendre au moins les bases, voilà, sans être un expert sur vraiment le compilo lui-même, avoir des notions sur comment ça fonctionne. Enfin, après, tu comprends plein de trucs, que ce soit dans tous les langages, hein, c'est les mêmes, mais que ce soit les interpréteurs ou les compilateurs, en fonction de ce que t'as. J'ai toujours trouvé ça super intéressant. Bon, bah, en tout cas, merci beaucoup, Audrey, pour ce résumé. Et n'hésitez pas donc à aller lire l'article qui est très complet sur le sujet. On va terminer avec les conférences comme à chaque fois, donc on va aller assez vite. Il y a toujours pas mal de conférences qui arrivent, donc ça va dépendre aussi quand est-ce qu'Emmanuel va post-processer cet article et quand est-ce qu'il va cet enregistrement qu'il va le publier. Il y a Vox Days Luxembourg qui arrive dans quelques jours, le 22 juin. Il reste quelques places, il me semble, si vous voulez venir. Moi, j'y serai. Il y aura du beau monde, on va s'amuser pendant toute une journée avec pas mal de conférences pendant toute la journée. Et c'est la fête nationale, ouais, donc en plus c'est assez sympa, ouais, c'est ça, le lendemain, donc la veille, le 22, il y a pas mal de trucs, etc. Il y a un Jenkins Community Day, oui, je fais un peu de promotion pour moi, qui a lieu à Paris le 11 juillet. Les inscriptions sont ouvertes, et il y a même un discount si vous allez sur la mailing list du Paris, du Jenkins Area Meetup Paris, il y a un petit discount. C'est vraiment pas cher la journée, ça doit être 60€, et je crois que avec le discount, ça tombe à 50, quelque chose comme ça, enfin voilà. Donc, si vous êtes intéressé par Jenkins et puis tout ce qui est DevOps, n'hésitez pas à vous inscrire, c'est le 11 juillet, voilà, avec JFrog, c'est organisé par JFrog. Le Jog Summer Camp, le 15 septembre à La Rochelle, comme chaque année, après les vacances. Le CFP est déjà ouvert, pas les inscriptions, il me semble. Et donc, le CFP est ouvert jusqu'au 23 juin. Donc, dépêchez-vous si vous voulez postuler sur le Call for Paper du Jog Summer Camp. DevFest, il y en a plusieurs qui arrivent. Il y a le Toulouse, le 28 septembre. Il y a le CFP qui est ouvert.
Les inscriptions aussi.
Il y a Nantes. Ouais. Les inscriptions SFP sont ouvertes pour DevFest Toulouse, DevFest Nantes, pareil. Donc lui, c'est le 19 et 20 octobre, j'arrive même plus à lire. Les inscriptions et le CFP sont ouverts. Les CFP, c'est jusqu'au 30 juin, donc dépêchez-vous. Scala.io, donc lui, c'est 2 et 3 novembre, c'est à Lyon cette année. Les inscriptions et le CFP sont ouverts, le CFP jusqu'au 8 septembre, donc là, vous avez un peu plus de temps. DevOx Belgique, comment ne pas en parler, du 6 au 10 novembre cette année. Le CFP et les inscriptions sont ouvertes aussi. Tiens, j'ai pas noté la fin du CFP, mais bon, ça. Je ne sais plus. Il vient d'ouvrir de toute façon, donc ça va pas tarder. Ça, vous avez du temps. Et puis Codeur en scène, qui a lieu à Rouen, ça c'est en fin d'année, c'est le 23 novembre. Le CFP est déjà ouvert et là vous avez jusqu'à la fin des vacances, jusqu'au 31 août. Voilà pour les conférences qu'on a listées. Si ça vous intéresse, enfin c'est toujours des bons moments pour découvrir à la fois des choses techniques et puis surtout des gens. C'est surtout ça qui est bien dans les conférences, c'est de rencontrer du monde et puis voilà. Messieurs, dames,
bien.
Merci beaucoup.
Merci.
Merci de cet épisode. Passez une bonne journée.
Vous aussi.
Bonne journée tout le monde. Et à très bientôt.
À bientôt.
Allez,
au revoir.
Damn it.
Le thème musical est le thème numéro 3, gracieusement offert par podcastthème.com, podcastthemes.com. Le logo a été dessiné par Nicolas Martignol, alias le Touilleur Express, www.touilleur-express.fr.